VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Villon, bonjour à tous. Il est 11h en temps universel. Le procès historique en destitution de Donald Trump a débuté hier par une guerre de tranchées entre les défenseurs républicains et les procureurs démocrates qui ont dénoncé des règles de procédure truquées visant à parvenir à un acquittement ou pas des charges du président des États-Unis. Les règles du jeu proposées par le chef de la majorité républicaine, Mitch McConnell, ont été adoptées au terme de près de 13 heures de débat pour ce troisième procès en destitution de l'histoire des États-Unis après ceux d'Andrew Johnson en 1868 et Bill Clinton en 1999. Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain chargé de l'Afrique, pour lui, c'était prévisible.
Le président du Sénat, c'est-à-dire de la majorité républicaine, le sénateur McConnell, il a ouvertement dit qu'il veut que le président Trump soit acquitté, c'est-à-dire sans avoir écouté les arguments, McConnell a dit, pour moi, il est innocent. Donc, il a organisé les procédures pour aider à arriver à cette conclusion qu'il est innocent.
Le démocrate dénonce un peu la procédure qu'il veut mettre en place avec des débats qui vont se dérouler jusque tard dans la soirée. Les démocrates pensent que c'est pour éviter que le public ne regarde les débats et les arguments.
C'est vrai, mais aussi les démocrates croient qu'il faut avoir des témoins. Il y a certains témoins qui n'étaient pas présents pendant les discussions dans la Chambre, mais maintenant ils sont disponibles. Par exemple, M. John Bolton, l'ancien conseiller pour la sécurité, il sera empêché de témoigner et il veut témoigner. Mais il y a un petit nombre de républicains qui risquent de voter avec les démocrates pour changer les procédures. Tout ce qu'il faut, c'est 4 républicains pour changer de place et voter avec les démocrates. Donc, c'est pas encore terminé les procédures. Je crois qu'il y aura un grand débat là-dessus.
Également, les avocats du président demandent au Sénat de l'acquitter immédiatement. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça n'a pas de chance d'aboutir, cette requête, n'est-ce pas?
Non, pas du tout. Et ce sera une conclusion que le président est coupable.
Il y aura au moins le débat.
Il faut un débat pour arriver là. Si vous voulez l'acquitter, et quand même, il faut écouter le débat. S'il n'y a pas de débat, il est coupable.
Mais il sera certainement acquitté à la fin, de toute façon, n'est-ce pas?
Il sera acquitté, mais ce sera un problème pour lui dans la prochaine élection. Avec ça derrière lui, qu'il était inculpé, etc., ça va lui faire du tort pour la prochaine élection, à mon avis.
Alors, qu'est-ce que vous pensez de la décision du président de recruter des avocats très connus à la télévision? C'est une bonne stratégie pour lui?
Oui, c'est pas mal, parce que ça peut aider Trump devant l'opinion publique. C'est une bonne idée pour lui. Dans ses intérêts.
Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint chargé de l'Afrique, interrogé par Abdou Ramandia, les démocrates qui représentent l'accusation présenteront leur argumentaire ce mercredi à partir de 18h GMT. Le procès de Harvey Weinstein commence pour de bon aujourd'hui avec côté défense des avocats décidés à saper la crédibilité de ses accusatrices et côté accusation le soutien du mouvement MeToo qui considère l'ex-producteur comme l'incarnation du prédateur sexuel. Après 10 jours de sélection des jurés au tribunal de Manhattan à New York, place aux plaidoiries d'ouverture avec 2 femmes en vedette de ce procès ultra médiatisé, Joanne Orban-Ilozi, procureur, et Donna Rotuno, principale avocate du producteur de cinéma déchu, habituée à défendre les agresseurs sexuels présumés. Madame Rotuno a laissé entendre qu'elle mettrait en doute les motivations des 2 principales accusatrices de son client, Mimi Alehi, une ex-assistante de production qui accuse Harvey Weinstein de rapports sexuels forcés en 2006 et une femme restée anonyme jusqu'ici qui l'accuse de l'avoir violée en 2013.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Sur le continent, il y a eu de nouvelles manifestations lundi et mardi en Guinée où le FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution, a appelé à une résistance dans tout le pays. Et hier, des violences ont été signalées à Conakry, la capitale, et dans plusieurs autres localités. Le point avec notre correspondant en Guinée, Zakaria Kamara.
Des journées de résistance citoyenne, c'est ce que demande le FNDC à ses militants depuis l'ultime marche du 6 janvier. Mardi, la capitale guinéenne a été partiellement paralysée. Des barricades ont été érigées à Conakry, à mes endroits, sur l'autoroute Le Prince. Selon un communiqué du gouvernement, sept véhicules ont été incendiés. Les autorités guinéennes ont annoncé une persistance des attaques contre les édifices publics. À Dalaba, à 264 km de la capitale, le commissariat central de police a été saccagé et pillé, des armes emportées, la prison civile cassée et 17 prévenus placés sous mandat de dépôt libérés selon le ministère guinéen de la sécurité. De son côté, le FNDC déplore une dizaine de blessés et plusieurs arrestations. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Sept soldats ont été tués mardi par de présumés djihadistes affiliés à l'État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, qui ont attaqué une position militaire dans le nord-est du Nigeria. Les combattants arrivés dans plusieurs camions équipés de mitrailleuses lourdes ont attaqué une position militaire dans le village de Menok, à 56 km de Maïdigouri, la capitale de l'État de Borno, sur la route menant à Damaturu, la capitale de l'État voisin de Yobe. Les djihadistes avaient emporté deux camions militaires et trois mitrailleuses anti-aériennes. Les 36 civils ont été tués lundi lors d'une attaque contre des villages du nord de Burkina Faso. L'attaque a visé la province du Samatinga, située juste en dessous de la province du Soum à la frontière avec le Mali. La justice sénégalaise a rejeté mardi la demande de remise en liberté provisoire du militant anti-système Guy Marius Sagna, en détention depuis son interpellation le 29 novembre à Dakar, lors d'une manifestation non autorisée pour protester contre l'augmentation du prix de l'électricité. Amnesty International Sénégal avait réclamé la libération immédiate et sans condition de M. Sagna et de huit manifestants interpellés avec lui devant les grilles du palais présidentiel de Dakar, une zone où toute manifestation est interdite en vertu d'un arrêté ministériel de 2011 dont l'opposition conteste la constitutionnalité. Les 9 manifestants ont été inculpés de participation à une manifestation non autorisée et risquent d'être renvoyés devant un tribunal correctionnel à l'issue de l'instruction toujours en cours. Sonnette d'alarme, deux chats en République centrafricaine. Selon le Bureau des affaires humanitaires des Nations Unies, plus de la moitié de la population, soit 2,6 millions de personnes, a besoin d'assistance et de protection humanitaire et environ 1,6 million de ces personnes sont en situation extrêmement vulnérable. Irénée Amanongo.
La communauté humanitaire appelle à la mobilisation de 401 millions de dollars pour mettre en œuvre des interventions vitales, souligne le Bureau des affaires humanitaires dans un communiqué marquant le lancement du plan de réponse humanitaire 2020 pour le pays. La Centrafrique est toujours déchirée par un conflit qui a forcé près du quart de ses habitants à fuir le pays. Même si les violences ont considérablement baissé depuis la signature d'un accord de paix entre le gouvernement et 14 groupes armés, les exactions contre les civils et les affrontements entre milices se poursuivent alors que deux tiers du territoire échappent toujours au contrôle du pouvoir central. Des contraintes sécuritaires et logistiques continuent d'entraver l'accès aux personnes vulnérables, rappelle Ocha, indiquant qu'en 2019, 306 incidents de sécurité ont touché des travailleurs humanitaires, tuant 5 d'entre eux et en blessant 42. Si l'assistance n'est pas fournie à grande échelle, la situation humanitaire, déjà critique, va se dégrader davantage, selon Mme Brown, coordonnatrice humanitaire en République centrafricaine pour l'ONU.
Et le président de la Centrafrique, Faustin Archange Touadéra, a accordé hier une audience à l'ancien président François Bozizé, revenu dans le pays en décembre après un exil de 6 ans. Depuis son retour, François Bozizé réclamait sans succès un entretien avec le chef de l'État centrafricain. La question de l'attribution du passeport de M. Bozizé, rentré en catimini à Bangui le 15 décembre, était au menu des discussions. La régularisation de la situation de certains militaires proches de l'ancien président et exclus des rangs, ainsi que l'examen du projet de loi sur le statut des anciens présidents ont également été abordés. L'entretien de mardi n'a cependant pas répondu aux attentes de l'ancien président, si l'on en croit Bertin Béa, le secrétaire général du Kaninka, le parti de l'ancien chef de l'État centrafricain. Et puis deux soldats congolais ont été tués par des rebelles hutus rwandais, ex-génocidaires, mardi dans l'est de la RDC, où Kinshasa affirme leur livrée et une guerre sans merci avec le soutien total de Kigali. Fin de ce journal. Le prochain, c'est dans 50 minutes. Vous retrouverez Henri Francis pour un nouveau journal. Portez-vous bien et merci pour votre fidélité.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.